Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Deux thèmes sont au menu de la tribune de ce vendredi 18 octobre 2019, à savoir lancement mercredi 16 octobre 2019 à Kinshasa par le chef de l'État de son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC. Et notre second thème portera sur les crashs de l'Antonov 72. Comme vous le savez, une délégation gouvernementale s'est rendue mercredi 16 octobre sur les lieux de l'accident. Elle est composée notamment du ministre de la Défense, du vice-ministre de Transport, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires. Participe au débat Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant. Alain Botoko, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, radio de la paix, et si tous ceux qui me suivent et nous suivent de Lomela et de Kolé.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. J.R. Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Kenikouté, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la radio Okapi, la radio de la paix.
Et Serge Bazamba, vous intervenez depuis Matadi dans la province du Congo central. Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir Serge Bazamba. Serge Bazamba, est-ce que vous êtes en ligne?
Je vous suis très bien.
Merci de nous suivre à Matadi dans la province du Congo central sous la 102.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite et les médias en ligne ont analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Bonsoir. Le crash de l'Antonov jeudi 10 octobre dernier, le lancement par le chef de l'État du programme accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités sont des sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. Les tractations pour la désignation du porte-parole de l'opposition occupent aussi la une des journaux quinois. Ainsi, Forum des As, ses titres, lutte contre la pauvreté, Fachi appelé à placer les curseurs sur l'agriculture. Les quotidiens soulignent que, dans ses programmes présidentiels accélérés, présentés mercredi à Kinshasa, le chef de l'État s'engage à mettre fin à la misère des 25 millions de Congolais durant son quinquennat. En effet, Félix Tshisekedi précise que son programme poursuit deux objectifs. D'abord, réduire les inégalités sociales. Ensuite, accélérer les programmes traditionnels porteurs des résultats plus lent. Convaincu qu'il ne peut rien faire tout seul, le chef de l'État congolais a dit vouloir s'assurer que l'exécutif, ayant la charge de la gestion quotidienne du pays, partage cette vision qui a non seulement l'ambition de soulager les Congolais, mais aussi de les sortir de leur misère chronique, rapporte le tabloïd. Radio Capi.net abonde dans le même sens en précisant que ce programme du chef de l'État contient trois composantes. La première vise à accroître l'accès de la population aux services de base. La deuxième vise à s'assurer que les populations des villages disposent des sources de revenus améliorées et stables. Et la troisième vise à développer une culture de l'autonomie. Un autre sujet traité par la presse de la RDC concerne un avion cargo avec à son bord 8 personnes qui a disparu jeudi. Cette sur cette procédé, qui cite un communiqué de l'autorité de l'aviation civile, précise que c'est un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de la RDC assurant la logistique présidentielle ce jeudi 10 octobre 2019 ayant à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires est parti de Goma à 13h32 temps universel, a perdu contact avec le centre de contrôle en route aux environs de 15h, soit 59 minutes après son décollage avec une autonomie de 6 heures de route. Des portails soulignent que cet Antonov 72 devait atterrir à Kinshasa à 16h43 temps universel. Le potentiel indique que l'énigme reste encore entière sur ce crash du jeudi 2 octobre 2019. En quoi les tabloïds, jusque-là, les conditions de cet accident n'ont pas été élucidées. Une cellule de crise a été mise en place pour faire toute la lumière sur ce crash. En attendant les conclusions de cette enquête, poursuit le journal, rumeurs et précipitations sont allées dans tous les sens. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, s'est dit peinée après le décès des collaborateurs de Félix Tshisekedi dans cet accident d'avion, rapporte casinfo.ca. Les journaux en ligne, citant un rapport préliminaire d'enquête, fait remarquer que tout porte à croire aux premières analyses des spécialistes du domaine aéronautique que les mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de cet incident dramatique. Sur le chapitre politique, les potentiels écrits relayant la Libre Belgique que les dossiers de la désignation du porte-parole de l'opposition devraient être bouclés dans les prochains jours, dans un contexte marqué par l'affaire des détournements de 15 millions de dollars, le crash de l'avion présidentiel et l'hostilité de plus en plus palpable de la base de l'IDPS vis-à-vis de l'accord CASH-FCC. La désignation du chef de file de l'opposition annonce l'entrée en scène de nouveaux acteurs dans la pièce qui se joue au sein de la classe politique congolaise. Un nouvel acte risque de se tenir dans les tout prochains jours. Désignation du porte-parole de l'opposition, le sujet divise katumbistes et fayolistes, titre casse-info.ca. La dynamique pour la vérité des urnes DVI en sigle monte au créneau pour s'opposer à la démarche entreprise par les groupes parlementaires MSG7 concernant la désignation du porte-parole de l'opposition, rapporte les médias en ligne, expliquant que cette structure estime que l'initiative des katumbistes viserait à reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté pour ce journal des journaux. Alain Botoko, je rappelle que vous êtes journaliste et photographe indépendant. Parmi les deux sujets retenus pour l'émission de ce soir, avez-vous une autre actualité que vous voulez commenter?
Oui, je commente sur l'assainissement de la ville de Kinshasa que nous habitons tous, qui pose réellement un sérieux problème par manque de politique publique qui devait réunir toutes les parties, les autorités, le privé, les ONG, pour pouvoir chercher une solution durable. Vous imaginez, dans les zones collinaires comme celle de Mongafula, où nous habitons, ou à Ngaliema, les érosions ne se comptent plus, donc, et les maisons partent une après une, chaque pluie, et les vies humaines aussi sont mises en danger, mais aussi les immondices qui sont délaissées partout, et nous ne comprenons plus rien, alors que les immondices sont la première cause de maladies et qui emportent de vies humaines tout le jour. Voyez-vous aussi, nos rivières sont inondées, les inondations sont partout et là c'est un problème réel. Donc l'autorité doit pouvoir chercher à réunir toutes les forces composantes de la société pour pouvoir chercher des solutions durables et non des sauvegardes du type Kinobopeto.
J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes journaliste producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa, un autre sujet d'actualité qui a attiré votre attention cette semaine.
Moi, c'est la difficulté en tout cas que nous les Kinois nous rencontrons ces derniers temps pour pouvoir circuler. Cette difficulté est due à la construction des sauts de moutons, de certains ouvrages d'art. Aussi ces derniers temps, par exemple, au fait qu'il y a des contrôles au niveau du ministère des Transports pour le paiement de la vignette et aussi le contrôle technique, ce qui fait que le nombre des véhicules de transport en commun privé sont considérablement réduits et les gens sont obligés ces derniers temps de pouvoir marcher à pied sur de longues distances. Il y en a qui arrivent au boulot en retard, il y en a qui déboursent plus que prévu parce que les transporteurs qui sont restés et aussi ils font du demi-terrain parce qu'ils ne peuvent pas circuler comme il se doit et parce que les routes sont défoncées, les routes sont bloquées. C'est qu'une chose. Donc ça pose en tout cas un problème. Et je voudrais aussi dénoncer un autre fait, le mauvais comportement de nos policiers. Il est normal qu'on arrête quelqu'un qui enfreint par exemple au cours de la route, mais je crois que c'est pas indiqué qu'on puisse opérer une destruction méchante sur un véhicule d'un particulier, par exemple en détruisant le pneu et tout ça. Je crois que ce comportement doit être dénoncé et les autorités de la police doivent essayer un peu d'humaniser ce service-là de l'État qui vit grâce aux contribuables qui payent les impôts et taxes.
Serge Bazamba, vous intervenez depuis Matadi dans la province du Congo central. Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans votre province?
Il faut reconnaître que ce silence remarqué à propos des affaires liées au Congo central fait également partie de l'actualité parce qu'on se pose la question qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. La population est donc désaxée. On aimerait que les politiques ainsi que les hommes de la loi puissent se prononcer pour qu'on soit fixé à propos de la gestion de la province du Congo central. Il y a également comme information, c'est la flambée des prix remarquée par-ci par-là, ici à Matadi. On apprend que dans certains magasins des expatriés, déjà là, les dollars étaient devant à 1670. Et il y a également d'autres prix des denrées au niveau de nos marchés qui sont en train de galoper. On se pose la question à chaque fois qu'il y a augmentation des salaires, nous subissons ce genre de problèmes. Également, il y a des assassinats remarqués dans la ville de Matadi, hein, 15 morts, 15 assassinats des candidats, c'est trop. Et cette espèce de sécurité, c'est ça. Maintenant, pour la ville de Matadi, à Lukala, où a été donc abattu à bout portant par des attaqués armés, une sieste de 8 ans. Donc voilà un peu en gros ce que la côté de la province du Congo central.
Un premier thème de ce soir, sortir de la pauvreté. 20 millions de Congolais vivront en milieu urbain et rural dans les 5 prochaines années. C'est ce que vise le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit mercredi à l'occasion du lancement officiel de ce programme. La cérémonie s'est déroulée sur le site du lac Mavalé, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa. Le programme de Félix Tshisekedi comprend 3 axes fondamentaux, nous dit Paul Matendo.
Il s'agit premièrement pour Félix-Antoine Tshisekedi de l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services sociaux et économiques de base. Ensuite, de la promotion des économies rurales et périurbaines. Enfin, du renforcement des capacités en gestion axée sur les résultats. Ces 3 axes se résument, selon lui, par l'amélioration du social des Congolais. Félix-Antoine Tshisekedi.
La première composante vise à accroître l'accès de la population aux services de base qui sont l'habitat, l'électricité, l'eau potable, la santé.
Dans l'assistance, plusieurs organisations paysannes venues exposer leurs produits agricoles dans les stands installés pour la circonstance. Bijou Bimpe, présidente de la fondation Bassia Maele, spécialisée dans la transformation des produits agricoles, estime que le lancement de ce programme va booster les activités des paysans.
Le président lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils veulent que les mamans qui fabriquent des trucs comme le savon, les produits, qui prennent un peu de niveau là.
La cérémonie du lancement de ce programme présidentiel a connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres les membres du gouvernement et des diplomates accrédités à Kinshasa.
Jia Bukolo, journaliste et producteur du magazine d'information CCTV, une chaîne de télévision émettant depuis Kinshasa, lancement mercredi 16 octobre par le chef de l'État de son programme accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités en RDC. Quelle lecture vous faites de ce programme du chef de l'État?
Bon, c'est quand même assez surprenant parce qu'il n'y a pas longtemps, le chef de gouvernement, Ilunga Ilunkamba, devant l'Assemblée nationale, avait défendu un programme du gouvernement qui devait intégrer, je crois, la vision du chef de l'État dans sa matérialisation. Je suis surpris qu'on ait un programme accéléré du chef de l'État. À ce que je sache, le chef de l'État, il ne gouverne pas directement. Donc s'il doit gouverner, c'est à travers le Premier ministre que ça doit se faire. Bon, ce programme des choses de l'État va être financé par quelles ressources? Ça va émerger de quel budget? Qui vont exécuter ce programme accéléré du chef de l'État? Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas l'intégrer dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale? Donc c'est un peu des interrogations que nous sommes en train de questions que nous posons sur cette façon de gouverner le pays. Donc cela risque demain là ou après demain d'arriver à des couacs ou à des frictions entre le Premier ministre et le chef de l'État. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ça c'est un peu les remarques que je voudrais faire. Bon, dans les fonds, il nous promet 20 millions de Congolais qui devront sortir en tout cas de la pauvreté d'ici 5 ans. Bon, je ne sais pas, il y en a combien de Congolais qui vivent dans la pauvreté? Et il va sortir le 20 millions avec quels moyens? Est-ce que c'est à travers les fonds sociaux, des projets que les fonds sociaux et d'autres organismes vont matérialiser sur terrain, exécuter sur terrain, que ces populations-là vont sortir de la pauvreté? Moi, je me dis que ça risque d'être une opération de communication sans lendemain. Il faut faire en sorte, par exemple, que nos ressources naturelles qui sont exploitées puissent en tout cas être exploitées de façon à avoir suffisamment de ressources dans les caisses de l'État. Il faut faire en sorte que ceux qui entrent dans les caisses de l'État puissent échapper au coulage des ressources, à la corruption, au détournement des deniers publics qui se fait au niveau des fonctionnaires de l'État, par exemple. Il faut faire en sorte que ce que nous exploitons, ce que nous cultivons, par exemple, sur le plan agricole, soit acheminé en construisant des routes de dessertes agricoles, en relançant, par exemple, les sociétés de transport comme l'ex-Onatra avec ses bateaux, ses barges qui acheminent les productions agricoles, les sites de production vers là où les gens doivent, en tout cas, les consommer dans les centres urbains. Je crois que c'est des bonnes choses qui doivent être faites, mais je doute fort que le chef de l'État n'étant pas les gestionnaires de l'État au quotidien, que ces programmes-là soient en tout cas réalisés et qu'il risque d'y avoir des couacs, des frictions entre lui et les chefs du gouvernement. Parce qu'on a comme l'impression que là où le Premier ministre doit agir, c'est le chef de l'État qui est partout. Il inaugure à gauche, à droite, il lance la première pierre pour édifier tel bâtiment. Merci. Je ne sais pas, il est en train pratiquement là de faire ombrage au Premier ministre. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose.
Madame Botoko, journaliste et photographe indépendant, vous pensez aussi que le chef de l'État fait ombrage au Premier ministre. Comment vous analysez ce programme du chef de l'État?
Il faut dire qu'il faut féliciter la bonne volonté ou la grande volonté que le chef de l'État a pour pouvoir amener quelque chose de nouveau au Congo. Parce que la misère dans notre pays a atteint un niveau insupportable. Et je comprends le souci qu'a le chef de l'État pour pouvoir faire tout pour chercher des solutions d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, moi, ce que je voulais conseiller ou amener comme contribution, c'est que il faut que le pays ait un plan général, une politique générale publique pour dans tout le secteur. Que ce soit dans le fonds de nos villages, que ce soit dans le ville, nous avons autour de 96 700 entités, villages, villes y compris. Et dans ces 96 700, il n'y a que autour de ça 37 villages ou entités qui sont électrifiées. Vous savez que le défi, il est énorme. Et alors, le chef de l'État, je vois la volonté, il démontre qu'il a la volonté pour changer quelque chose dans le pays. Mais alors, cette volonté ne va pas suffire, il faut accompagner cette volonté par un plan, un planning. Le planning doit être bien ficelé. On a combien d'argent, on a combien de routes qu'il faut construire, il faut construire combien d'hôpitaux, il faut construire combien d'écoles, donc ça doit s'étudier, et ça demande même de l'expertise de l'extérieur, donc ça c'est pas quelque chose ça ne doit pas se limiter par le discours, mais ça doit plutôt être réfléchi et impliquer tout le monde, toutes les couches, demander aux villageois, ceux qui habitent le ville, qu'est-ce que vous voulez que notre pays soit cette année, 2 ans après, 10 ans après. Donc c'est ça le travail effectivement que
les axes contenus dans ce programme du chef de l'État, on les retrouve dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Elou Kamba.
Oui, c'est vrai que le chef de l'État ne sort pas de ce que le gouvernement doit gérer. Lui, il donne l'impulsion au gouvernement de faire ce qu'il faut.
Serge Bazamba, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise. Comment vous analysez ce programme du chef de l'État?
Voilà, nous avons tous aimé. C'était là un discours très populiste, tout simplement ambitieux, traduisant la bonne foi et la maîtrise des choses de la part du chef de l'État. Il y a eu des innovations, parce que là, il a promis de se faire accompagner de la justice, qui doit également... Et tout ce qui fait que les choses ne marchent pas au Congo, c'est la corruption, le détournement. Je pense que Kenya a l'engagement de faire également impliquer la justice dans ce projet. Je pense qu'il y aura quand même de la réussite. Mais il faut dire que c'est un discours qui se ressemblait également à l'essentiel de tout un programme de développement du gouvernement. Je veux dire, pour répondre à la question que les Congolais se posent tous les jours, que demande le peuple. Et donc, la nourriture, s'habiller, étudier, il a pratiquement répondu à toutes ces questions. C'est vrai, les amis ont abordé d'autres aspects, y compris le gouvernement. Mais moi, je me dirais que Le président doit être cohérent dans ce qu'il dit. Parce que à chaque fois qu'il prend la parole, il prend des engagements. Et tous les jours qu'il fait des engagements vis-à-vis de sa population, il doit faire très attention et il doit être conséquent. Si vous allez plus loin, quelque part dans son discours, il est en train de dire que le seul hiver de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous a qui nous fait rejeter. Je suis très content de ce genre de propos. Ce n'est pas une fatalité, cette crise. Ce n'est pas un mauvais sort. Mais le même président de la République, nous l'avons vu au stade, dernièrement, par une prière hein, de l'église, soi-disant, il était prié pour le pays, nous avons été maudits. Il doit être conséquent et cohérent dans ce qu'il veut. Il était au stade, participé à une prière, je ne dirais pas inutile, mais aujourd'hui, il reconnaît tout de même que nous ne sommes pas maudits. Mais dans nos églises, on nous enseigne qu'ils sont maudits. Le président doit faire très attention. Il doit tout simplement faire en sorte que nous puissions changer nos mentalités. Vous imaginez au Congo, un lundi à 11h, on prie dans nos églises. Alors que le dimanche, on était à l'église. Un lundi à 11h, on va encore prier. On va faire très attention. Parce qu'il y en a qui sont convaincus qu'ils sont maudits. Et le président, moi, je ne peux que féliciter. Pour ajouter encore quelque chose, il y a France Australie qui existe. Il y a également les DPCO qui existent. Il doit plutôt se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché avec... notamment des échos. Des échos, moi je suis à Maccabi, il y a des échos qui ont été construits ici, mais au lendemain on voit que ça moisit déjà. Fonds social, j'ai eu à accompagner Fonds social à travers le pays parce que j'étais leur attaché de presse ici, au Congo central. C'était une bonne vision, mais il y a quand même une histoire à corriger là-bas. Qui ne pense pas inventer la roue, mais qui doit s'appuyer.
Alors, on a perdu Serge Bazamba, la réalisation va essayer de le retrouver. J.R. Mukolo, le président, prend beaucoup d'engagements. Il prend des engagements tous les jours, comme vient de le dire Serge Bazamba. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, en tout cas, notre confrère Serge Bazamba a raison. Le chef de l'État, nous constatons tous qu'il prend en tout cas beaucoup d'engagements. Quand il parle
mais c'est pour les biens de Congolais.
Voilà, bon, il ne suffit pas seulement de prendre des engagements, mais il faut avoir le moyen de pouvoir matérialiser, honorer ses engagements. Parce qu'il ne faut pas qu'il passe comme un démagogue qui promet juste pour promettre, mais que dans la réalité, lui-même sait qu'il ne peut pas réaliser ce qu'il promet. Déjà au niveau de la gratuité de l'enseignement qu'il a promis aux Congolais, vous vous rendez compte qu'à gauche, à droite, il y a des grèves, il y a des enseignants qui ne sont pas d'accord en tout cas de perdre leurs revenus qu'ils avaient à l'époque où les parents prenaient en charge la scolarité de leurs enfants. Bon, quand il parle par exemple de l'accès des populations de ces milliers périurbains et ruraux aux services sociaux de base, il cite l'électricité, il cite l'habitat, il cite la santé, l'accès à l'eau potable par exemple. Nous nous rendons compte que chaque jour qui passe, ces services-là sont de moins en moins en tout cas performants dans notre pays. L'électricité, ça devient une denrée rare, l'eau n'en parle même pas, la santé pour y accéder, ce n'est que les riches en tout cas qui accèdent, l'habitat aujourd'hui est précaire, donc tout, rien que prendre ces services sociaux de base là, ça va demander beaucoup beaucoup de milliards d'investissements. Donc je pense que quand il est dit, il sait qu'il va trouver des moyens pour pouvoir en tout cas donner aux Congolais ces services sociaux de base. Mais s'il est dit pour le dire, pour faire plaisir à la base de la population, pour qu'il se fasse applaudir, moi je crois qu'il va être rattrapé demain, quand rien sur le terrain en tout cas ne pourra se faire. Et on ne doit pas oublier qu'il est élu pour 5 ans, et que dans 5 ans, les gens en tout cas vont les juger comme on juge un maçon au pied du mur.
Alain Botoko, y a-t-il des moyens, le pays a-t-il des moyens pour réaliser ce programme de chef de l'État?
Le pays a des moyens si la justice travaille, fait son travail comme il se doit. Le pays a des moyens si les corrompus et les corrupteurs sont punis, sont sévèrement punis. Le pays a des moyens si tout le monde travaille et si tout le monde paie son impôt. Et moi, je crois que l'autorité de l'État doit... Il faut, parce que le président Félix et son UDP sont en train de prôner le changement et un changement total. Il faut que ils agissent. Il faut que l'impunité cesse. Il faut que ceux qui détournent, ceux qui volent le peu d'argent qui devait entrer dans les comptes de l'État, ces hommes, ces femmes soient punis. Et si on fait ça, moi je crois que nous sommes dans un pays qui a de l'argent. mais c'est, cet argent est mal utilisé, mal distribué, et il y a trop d'impunité. Il faut qu'on cesse avec ces impunités et même le fonctionnement des institutions où certains prennent l'argent, tout l'argent, et les autres n'ont rien. Alors, ça n'est juste nulle part comme ça au monde. Et nos entreprises, il faut alors mettre dans la tête de nos entreprises, des managers, les hommes et les femmes intelligents qui savent gérer au quotidien, qui savent où puiser de l'argent, comment faire entrer l'argent dans le caisse de l'État. Mais aussi, nous avons l'obligation, nous tous, nous Congolais. Moi, je refuse cette histoire-là de l'État mère ou l'État père. Non, l'État doit... c'est le peuple qui donne l'argent à l'État pour pouvoir avancer. Et l'État doit avoir une gestion qu'il faut pour canaliser l'argent. Il faut de l'argent pour faire étudier nos enfants. Parce qu'un pays où il n'y a pas d'enfants qui ont étudié, ce sont des rébellions, ce sont des clowns qui vont naître partout. Donc il faut que tout le monde travaille et il faut qu'il y ait du sérieux dans la gestion. Il faut qu'il y ait vraiment rupture avec le passé. Il faut qu'il y ait effectivement l'inventaire de tout ce qui s'est passé pour pouvoir canaliser de nouveau la gestion pour que tout le monde se retrouve.
Alors la crainte pour certains experts, le fait de lancer plusieurs programmes à la fois, il y a cette crainte-là de ne pas pouvoir les concrétiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces experts?
Oui, mais ils ont en partie raison, mais moi, j'incombe la faute à ceux qui entourent le chef. Au conseiller. Le chef, lui, ne connaît pas tout. Les conseillers devaient effectivement se réunir. Moi, l'impression que ça donne, c'est comme si chacun travaille dans son coin. Tous les conseillers devaient se réunir avec des experts ici au pays, de l'extérieur du pays, pour canaliser, faire un projet qu'il faut avec les moyens que nous avons sur place, les moyens que nous pouvons acquérir auprès de nos partenaires et pouvoir booster quelque chose de nouveau. Mais si ça se fait d'une manière, chacun vient à son tour pour qu'il soit vu, qu'il est conseillé, qu'il est ceci, qu'il est cela, moi je pense que ça risque d'être bloqué et alors dans ces conditions-là, rien ne va marcher. Mais si tout le monde se met ensemble et qu'on réfléchit ensemble, je crois que certaines choses peuvent réussir et je suis sûr que ce ne serait qu'un devis parce que le défi est énorme, notre pays est par terre.
Serge Bazamba, le deuxième axe de ce programme vise à s'assurer que les populations, les villages notamment, disposent des sources de revenus améliorées et stables. Il y a des analystes qui disent que tant que les décisions viendront de Kinshasa, ça sera difficile pour ces populations des villages de disposer des revenus améliorés et stables.
Voilà, c'est ce que j'ai dit, je disais tout à l'heure là que le président ne va pas inventer la roue parce que déjà des programmes ont existé et existent encore. Les fonds sociaux a des antennes un peu partout, c'est pas si c'est toujours là, mais nous avons travaillé avec les fonds sociaux et avait des antennes partout à travers le pays. Donc on ne peut pas tout centraliser au niveau de Kinshasa, il n'y aura pas de résultats. Et je ne sais pas si vous m'avez suivi, si c'est coupé ou comment, les autres ont quand même plébiscité le chef d'État de cette justice travailler en partenariat avec la justice. Moi également, je me dis qu'il faut restaurer la sanction pour que cela puisse évoluer. On peut beau travailler à partir de Kinshasa, mais également à partir des provinces, mais il faut restaurer la sanction en RDC. La sanction ne consiste pas aux révocations tout court. Vous révoquez, mais également, il faut que ce métier puisse être puni autrement, donc être jugé. Et je l'avais dit, mais j'étais un peu coupé. J'ai applaudi des mains le chef de l'État lorsqu'il a fait comprendre aux Congolais que ce projet ne peut aboutir que si j'ai l'appui de la population. Parce que on doit avoir affaire à un peuple travailleur. C'est très important. Il n'est pas le seul, le Congo, à travailler. Il doit être accompagné par la population. Le peuple doit également travailler. Aller dans la fonction publique, hein. Les gens la réclament beaucoup, mais ils ne travaillent pas beaucoup. Ils vont au travail à 10h, ils vont au travail à 11h, ils rentrent à la maison à 13h, mais après ils demandent de refaire la mission chez Omini. En réalité, nous ne travaillons pas beaucoup, mais nous voulons gagner beaucoup. Donc il doit faire en sorte que la population puisse travailler à travers des stratégies qu'il a mises en place pour changement de mentalité, faire comprendre aux gens que ce n'est pas en allant à l'église qu'on puisse faire développer un pays, c'est en allant travailler. Et tout ça, c'est un travail qu'il doit faire lui-même le chef de l'État.
Merci Serge Bazamba. Rapidement, J.R. Moukolo, parce qu'on doit passer au deuxième.
Je vais aller dans le même sens que Serge Bazamba, qui se rend compte que nous ne sommes pas en tout cas des travailleurs. Rendez-vous compte, par exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de devenir président, il n'était qu'un simple politicien de l'opposition. Mais aujourd'hui, une fois devenu président, le nombre d'associations de soutien aux chefs de l'État qui naissent, à gauche, à droite. Toutes ces associations-là, ce n'est même pas pour produire la richesse. C'est pour chercher à être financé, donc une association de commandeurs qui veulent, en tout cas, dans ce cas, les chefs de l'État passent pour qu'on leur donne de l'argent. Est-ce qu'on peut se développer avec de telles attitudes? Déjà, au lieu de créer des structures pour produire de la richesse, ils créent des structures pour vanter le chef de l'État, pour l'applaudir, pour rouler à terre quand il passe, pour qu'on leur donne de l'argent. Donc c'est déjà un mauvais signe. Je crois que si j'étais son conseiller, même si j'étais par exemple un dirigeant de l'UDPS, il faut mettre fin à de telles associations.
Deuxième et dernier terme de ce soir, une délégation gouvernementale a quitté Kananga mercredi 16 octobre dans la matinée pour le lieu du crash de l'Antonov 72, l'avion de l'armée congolaise affrété pour la logistique présidentielle. Elle est composée notamment du ministre de la Défense, du vice-ministre de Transport, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires. Elle a quitté Kananga mercredi matin à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO. Tous ses responsables se sont rendus jusqu'au lieu du crash à 7 km du village Okoto dans le Sankuru. Les détails avec vous, Joël Bofengo.
La délégation gouvernementale qui est arrivée mercredi à Okoto à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO était notamment composée du ministre de la Défense, du vice-ministre des Transports, des représentants du chef de l'État ainsi que des responsables militaires. Elle s'est notamment entretenue avec les experts qui mènent les enquêtes sur le lieu du crash. Selon les informations que Radio Okapi a pu obtenir, les experts ont annoncé à la délégation avoir découvert d'autres restes humains dans les périmètres où les débris de l'appareil sont éparpillés. L'équipe d'experts devrait arriver à Kananga ce jeudi avec ses restes humains. À son retour de Koto, le ministre de la Défense qui conduit la délégation gouvernementale n'a pas souhaité faire des commentaires expliquant attendre l'arrivée des experts à Kananga. La veille, avec une équipe de secours et d'urgence de la mission onusienne, le gouverneur du Sankuru, Joseph Stéphane Mukumadi, s'était rendu sur le lieu de l'accident. L'équipe a déterré les restes des trois corps qui avaient été inhumés samedi sur décision du chef de secteur de Bakuchulo Kenye. Les corps ont été ramenés à Kananga, où ils sont gardés dans une morgue provisoire de la MONUSCO. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Merci Joël Bofengo. Alain Botoko, je rappelle que vous êtes journaliste et photographe indépendant. Près d'une semaine après le crash de l'Antonov 72, toujours pas des communiqués officiels du gouvernement congolais.
C'est pas un bon signe, madame. Alors, vous savez que suite à cet accident qui a endeuillé des familles et qui a causé énormément de mal à ces familles, ça devait être quelque chose l'information devait passer de le premier minute ou de la première heure de cet accident là. Et nous avons vu la cacophonie dans la gestion de l'information à la présidence. Ce sont le tweet, ce sont le message dans la page Facebook. Pourtant il y a une télévision, une radio nationale qui rassure tout le monde ou un grand nombre d'hommes et des femmes sont en train de suivre aujourd'hui. Alors ça ne rassure pas. Mais pour entrer un peu dans le détail de cet accident, vous voyez, et ça je le dis tout à l'heure là, que quand le président Tshisekedi prend le pouvoir, lui il est chef, il a toute la nation dans sa tête, dans ses épaules, mais ce sont ses conseillers, ce sont les gens qui sont autour de lui qui devaient l'aider pour pouvoir comprendre certaines choses. Il fallait faire le checking, l'inventaire de tous ceux qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé combien d'avions à la présidence, combien de véhicules, combien de maisons, combien de concessions pour la présidence, combien de bateaux, et ils sont à quel état. Et ça c'est derrière le chef, parce que le chef, lui, ne sait pas dans cet avion-là où son véhicule entre, est-ce qu'il n'y a pas de sac de manioc qui entre, il n'y a pas de sac de haricots, il n'y a pas de ceci ou de cela. Alors, voyez-vous, donc ça devait effectivement être le travail de conseiller du chef. Et en réalité, le chef devait à un certain moment punir, parce qu'il ne faut pas que ces choses continuent. Vous savez, nos airs ne cessent de nous endeuiller, les avions. Quels types d'avions qui circulent au Congo aujourd'hui avec le changement climatique qui impose certaines disciplines partout au monde, dans la construction des avions, dans la construction de véhicules? Donc
ça effectivement ça devait effectivement être quelque chose de qui devait animer le débat dans la présidence et analyser un élément à un autre pour pouvoir effectivement se rassurer que nous sommes là, nous commandons les choses, parce que commander un pays, madame, c'est une grande responsabilité. Merci. Et la grande responsabilité, c'est aussi sécuriser sa logistique.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne de télévision émettant depuis Kinshasa. Une cellule de crise a été mise en place à la présidence et on attendait une communication de cette cellule mardi. Malheureusement, à la dernière minute, ça a été annulé. Il n'y a pas assez d'informations par rapport à ce crash et la rumeur va dans tous les sens. Comment vous percevez cela?
Bon, je note un peu comme un vent de panique là, quoi, qui souffle dans nos institutions et surtout au niveau de la présidence. Je ne sais pas, ils ont été surpris par ce qui vient de se passer. Et tout le monde a peur de pouvoir communiquer. Ils sont embarrassés. Je n'arrive même pas en tout cas à m'expliquer. Mais je voudrais quand même tirer des leçons à ce qui vient de se passer. Donc c'est un peu le résultat de l'incurie, de la légèreté, de la négligence dans la gestion des affaires de l'État. Madame Kéline Kouté, vous connaissez la grande puissance qui est les États-Unis, qui a un avion du chef de l'État qui s'appelle Air Force One. Et cet avion-là, on l'entoure de beaucoup, 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 en tout cas, de sérieux dans sa sécurisation. Et même la logistique présidentielle s'est assurée, je crois, par des avions Pimpa 9. Moi, je ne peux pas m'expliquer que, même si on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas le même moyen, mais je ne peux pas m'expliquer qu'on assure la logistique du chef de l'État par un avion datant des années 87 qui appartient à une société privée étrangère et pilotée par des étrangers. Ça veut dire qu'on n'a pas pris en tout cas au sérieux la logistique et la sécurité du chef de l'État. Donc, comme les soins à tirer, il faut qu'on débourse des moyens pour qu'on dote en tout cas la présidence de la République, des avions Pimpa 9 qui répondent aux normes de sécurité pour que demain, on n'apprenne pas que ce qui est arrivé à l'avion assurant la logistique du chef d'État arrive au sous-chef de l'État. Deuxièmement, je voudrais quand même monter au créneau pour essayer un peu de dénoncer le manque de culture politique de nos amis de l'UDPS. Des réactions épidermiques dont on a assisté de la part des combattants du DPS, et ces mouvements-là ont commencé au siège même du parti présidentiel, qui se sont déversés dans la rue, qui ont bloqué la circulation, qui comme ça, sans enquête préalable, pointaient du doigt, par exemple, l'ancien chef d'État Joseph Kabila, comme étant le responsable de ce crash-là. Il aurait voulu faire un coup d'État à son successeur, il aurait voulu attenter à la vie de son successeur. Moi, je me dis que c'est quand même des réactions assez épidermiques et c'est dangereux. Je n'ai pas vu, par exemple, les responsables de l'UDPS recadrer comme il se doit leurs combattants. Ils ont trouvé un bouc émissaire. Non, c'est la Mouka qui aurait infiltré les combattants du DPS pour faire tout ce qui a été fait là, où la ville de Kinshasa avait été bloquée toute une journée à cause de la colère des militants du DPS qui accusaient l'ancien président Kabila d'avoir été à la base, je sais pas, de cet accident. Moi, je crois qu'il faut qu'on tire en tout cas les leçons. Et ceux qui, par exemple, se sont donnés à des spéculations, à des accusations sans fondement, que la justice puisse en tout cas s'occuper d'eux, parce que ça pouvait produire beaucoup, beaucoup de dégâts dans la ville. On a même vu le siège du PPRD être saccagé à cause de telles déclarations, de telles accusations sans fondement. Et si, par exemple, du côté aussi du PPRD de Kabila, on réagissait, donc on allait assister comme ça à des combats de rue entre le militant ou les combattants de deux familles politiques qui sont sur terrain en train de gouverner ensemble.
Serge Bazamba, vous êtes à Matadi dans la province du Congo central, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Une délégation gouvernementale est arrivée sur le lieu du crash. Trois corps ont été déterrés, puisque déjà enterrés par les villageois. Ces corps ont été déterrés et ramenés à Kananga, où ils sont gardés dans une morgue provisoire de la MONUSCO. L'équipe gouvernementale postal qui est allé sur le lieu n'a pas communiqué sur la date du rapatriement de ces corps à Kinshasa. Et au sujet de l'accident, on n'en sait pas davantage. C'est un problème de communication au niveau de la présidence par rapport à ce crash. Est-ce que cela ne va pas laisser place à la rumeur ou aux spéculations?
Moi, je me dis que nous faisons confiance d'abord à cette équipe qui a été envoyée sur place, parce que j'ai lu ce matin qu'il s'agit d'une équipe d'enquêteurs expérimentés. On a bien souligné une équipe d'enquêteurs expérimentés, renforcée par des experts de la Monusco. C'est pas fait des choses. Faisons confiance à ces gens-là. C'est vrai. Peut-être qu'il faut également viser de la célérité de la part de tout le monde, de la communication, mais il ne faut pas informer pour informer. On doit s'assurer de ce qu'on doit dire à la population. Mais après ça, il faut apaiser la situation, peut-être pas tout dire au début, mais à la minute, dire ce qui est nécessaire pour que la population s'affaisse quand même. Mais nous devons également dire que ceci relance la problématique de la crédibilité des avions volant sur le ciel congolais. On ne doit pas expliquer cela, on ne doit pas échapper à cela. Ça doit nous interpréter. Qu'est-ce qui se passe avec le ciel congolais? Est-ce que nos avions se sont tellement sécurisés? C'est le vrai débat en ce moment ici, mais on veut nous amener ailleurs. Je rejoins le conseil qui vient de parler de la négligence et l'imprudence, la part même de la présidence de la République. Lorsqu'on gère un pays, on doit être rigoureux. Dans les petits détails là, l'imprudence et la négligence, on doit faire très attention. Parce qu'il y a appris que au Canada, à Canada plutôt, il y a eu marché. Vous marchez contre qui? Ça me fait peur. On risque comme ça d'éloigner ceux qui nous gèrent pendant tous les 5 ans. Donc, ils sont responsables de rien. Ça me fait penser à une émission que j'ai animée les mercredis par 7 ans et 9 comme sujet, la culture de l'irresponsabilité des actes. Au Congo, lorsque quelque chose se produit dans le mal, donc c'est pas moi, en tout cas pas moi, c'est l'autre, toi c'est personne. La culture de l'irresponsabilité des actes commis. Donc personne n'est responsable, surtout pas moi. On doit chercher les responsables, ça fait de la négligence aussi. Donc on ne puisse pas continuer à citer celui qui est parti. Ça va fragiliser encore les dangers. Donc je crains fort qu'un jour que je ne souhaite pas que la fille du président soit en tête, qu'on puisse citer les noms des gens de Kabila comme l'auteur. On doit faire très attention. Donc, on doit ici prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire attendre les enquêtes se dérouler. Et je rejoins également l'ami qui a dit là-bas que l'IDPS et l'ALBA doit apprendre à éduquer ses membres, c'est-à-dire apaiser la situation. Ils ont accepté une coalition, ils ont accepté de travailler ensemble, ils doivent être conséquents, non seulement conséquents, mais également faire ce qu'on doit faire à un partenaire. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose qui te dit, il faut apaiser et vraiment apaiser.
Merci Serge Bazamba, on n'a plus beaucoup de temps. Merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Guy Maté qui était à la réalisation, Jean-Claude Ciel à la mise en onde de micro, Kéline Couté. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.